Ensemble, la parole de Dieu sur ce sujet de la patience. C'est un sujet important dans notre vie accélérée. Vous ne trouvez pas qu'on a une vie accélérée? Ah voilà, et parfois ça veut dire, ça favorise quand même l'énervement. On est énervé. Énervé, ça ne veut pas forcément se dire, dire en colère. Hein. Ici, je pense, vous dites en pétard. Mais quand on est dans une rapidité, hein, voilà, c'est plus difficile de garder son calme, garder la voiture. Non, on nous avait promis qu'avec la voiture, ça irait plus vite, on gagnerait du temps. Mais avec la voiture, on n'a pas forcément plus de temps. Avec l'ordinateur aussi, on nous a promis que l'ordinateur nous changerait la vie, nous faciliterait l'existence. Bon, c'est pas toujours vrai non plus. Hein? On est dans une société de l'instantané. On veut tout, tout de suite. Immédiatement. Achetez aujourd'hui, vous paierez dans 3 mois. etc., etc. Oui, mais on parle du permis accéléré. Hein, on peut réduire le temps d'apprentissage. Bon, tout cela, ça a ses limites. Je ne crois pas en la vie chrétienne accélérée. Je crois que pour les choses de Dieu, ça ne s'est pas accéléré. Dieu prend toujours son temps pour faire les choses. Et des fois, nous avons du mal avec ça parce qu'on est habitué dans le monde à être dans l'accélération. Et brutalement, des fois, avec Dieu, c'est plus du tout le même rythme. C'est un autre rythme, un rythme plus sage. Alors, lisons dans Ecclésias, chapitre 7, verset 8, déjà pour avoir ce paradigme biblique. Ecclésias, chapitre 7, verset 8. Ecclésias 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Alors, vous ne trouvez pas que dans ce monde de vitesse, on commence beaucoup de choses sans forcément les terminer. C'est un mal de notre siècle. Il faut aller tellement vite qu'on part dans tous les sens sans prendre le temps de la réalisation. Jésus a dit « Tout est accompli ». Ça veut dire que lui, il est allé jusqu'au bout de la mission. Il a été jusqu'à la fin de ce qu'il a commencé. Il vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est-à-dire, il vaut mieux se dire « Bon, je démarre, on ne va pas fanfaronner ». Il faut que j'aille jusqu'au bout. Amen. Un esprit hautain, c'est celui qui vous promet qu'il va avaler la mer avec tous les poissons. Et 3-4 matins plus tard, il n'y a plus personne. Soyons patients dans la vie chrétienne. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir cru au Seigneur un jour. Et c'est de croire jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Ne soyons pas hautains, mais ayons cette prudence de la patience. Mais j'aimerais d'abord voir avec vous, avec la parole de Dieu, qu'il est important d'être patient avec les autres. Vous voulez bien lire avec moi plusieurs passages? On va commencer dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Au travail, on m'a souvent demandé de former des gens, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas former, parce qu'il faut qu'ils comprennent tout tout de suite. Un bon formateur, me semble-t-il, c'est quelqu'un qui va être patient, qui va prendre le temps d'expliquer. Mais si vous vous énervez tout de suite parce qu'il ne comprend pas tout de suite ce que vous lui dites, ça va être compliqué de le former. Et je crois que c'est une grande qualité d'être patient envers les autres. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Amen. C'est-à-dire ces trois catégories de personnes qui viennent d'être citées. Ceux qui sont dans le désordre, donc qui pêchent, qui vivent d'une mauvaise façon et qu'il faut avertir. Ceux qui sont abattus et qui ont régulièrement besoin d'encouragement. Il y a ceux qui disent toujours « ça va frère ». Et puis il y a ceux qui disent toujours « ça va pas ». Ce sont les abattus. Et puis, enfin, les faibles, ceux qui ne se vivent pas toujours dans la victoire. D'ailleurs, je suis prudent avec cela. La victoire, la victoire, la victoire. Je ne pense pas qu'un chrétien triste soit forcément un triste chrétien, non. Il y a des moments où les chrétiens peuvent être tristes. C'est normal. Nous ne sommes pas toujours dans le ciel. Nous avons des moments difficiles de faiblesse. Et ces trois catégories de personnes, eh bien, il faut avoir le même remède, même s'il y a trois attitudes différentes à adopter face à ces trois catégories de personnes dans l'Église. En tout cas, ils ont tous besoin d'un même médicament, c'est celui de la patience. Usez de patience envers tous. Et usez, usez. Hein, c'est un verbe qui en dit long, pas être patient 5 minutes. Mais usez de patience envers tout le monde, même ceux qui sont dans le désordre. On peut tous avoir des moments de chute dans le péché. On ne va pas aider ceux qui vivent d'une mauvaise façon, même s'ils sont au Seigneur. On ne les aidera pas si on les achève, en ne leur donnant aucune chance de se relever. Même ceux qui vivent dans le désordre, il faut les avertir. Il n'est pas question de laisser faire, mais dans la patience. Avec de la patience. Parce que vous et moi, il y a eu des moments dans notre vie où on avait beau nous avertir, on était mal disposés et on n'a pas écouté ce qu'on nous a dit la première fois. Et Dieu soit béni, il y a eu des frères, des sœurs qui ont continué de prier et de nous aimer. Si on aime les chrétiens que quand ils vont bien, à quoi va servir notre amour? Est-ce qu'on n'a pas bien plutôt besoin d'être aimé quand on ne va pas bien? Usez de patience envers tous. Ce devrait être un climat dans notre assemblée, d'être patient envers les uns et les autres. Amen. Alors il y a cette parabole, on va la lire dans Luc chapitre 13, qui en dit long sur ce bon vigneron. Luc chapitre 13. Alors volontairement, on va lire un petit peu avant, parce qu'on oublie souvent pourquoi le Seigneur a donné cette parabole. Luc chapitre 13, verset 4. Luc 13, 4. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc c'est dans ce contexte-là où Jésus parle de repentance et de perdition, dans un contexte quand même grave, sévère, qu'il va dire aussi cette parabole du verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, littéralement, c'est l'ouvrier de la vigne. Hein. C'est qu'un ouvrier qui dit au patron, « Seigneur », c'est-à-dire quel respect pour son patron, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, c'est juste, tu le couperas. Amen. Il n'est même pas sûr que ça marche. Il dit peut-être. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. J'ai plusieurs fois utilisé cette parabole pour parler de la patience de Dieu à notre égard. Mais en la relisant, je me suis dit que ce n'était pas tout à fait exact. Dans la parabole, ce n'est pas le propriétaire qui est patient. Je ne dis pas que Dieu n'est pas patient. Mais dans la parabole, ce n'est pas le propriétaire qui est patient. C'est l'esclave, c'est l'ouvrier de la vigne. La vigne n'est même pas à lui, mais il y travaille. Et il a aimé travailler dans cette vigne. Et il a aimé même cet arbre au milieu de la vigne. Et c'est lui qui demande au patron, doucement, doucement, donne-lui encore une chance. Je te promets rien, peut-être ça marchera. Et après, c'est toi le patron, tu feras ce que tu veux. Mais allez encore, encore une fois, encore une année. C'est un bon état d'esprit, vous ne trouvez pas? Le patron lui dit, mais moi, j'aime pas de rentabilité, là. Il occupe une place inutile, il prend de la place, on va mettre autre chose qui va produire. Oh non, dans l'Église, nous n'avons pas cet esprit de rentabilité. Non, non. On peut dans l'Assemblée être là pendant un certain temps, parfois assez longtemps, sans porter beaucoup de fruits. Mais peut-être que demain, le frère ou la sœur porteront du fruit. Alléluia. Alors on va éviter de le couper, de l'arracher. Le Seigneur fera ce qu'il veut après. Parfois, oui, il y a des âmes qui partent parce que, à force de toute de patience et d'années, ils n'ont pas porté du fruit. Mais nous ferons tout pour donner la chance à chacun de porter du fruit un jour. Amen. Nous voudrions remplir toutes les bonnes conditions. Il dit, j'y mettrai du fumier. Il va se donner du mal, hein. Il dit pas seulement au patron, on va attendre un an, puis on verra bien. Après tout, c'est à lui à se bouger, hein. Non, il creuse, il met du fumier, il va faire ce qu'il faut. À que notre assemblée soit une assemblée qui fasse ce qu'il faut pour que chacun puisse porter du fruit. Amen. Puissions nous aider les uns les autres et aider ceux qui en ont encore plus besoin que d'autres, par des conseils, par de l'amour. Et ainsi, s'ils ne portent pas de fruits, nous aurons au moins fait tout ce que le Seigneur voudrait que l'on fasse pour eux. Amen. Mais je crois, j'ai bonne idée qu'en général, ça marchera. Parce que Dieu est puissant, et que si l'Église fait ce qu'elle doit faire, il n'y a pas de raison qu'un arbre qui est fait pour porter du fruit n'en porte pas. Amen. Et je vous le rappelle, hein, dans le contexte, étaient les 18 hommes écrasés par la tour de Siloé, et Jésus dit, bah oui, ils sont morts comme ça. Des fois, nous on dit, oh, il est mort bizarrement, c'est un jugement de Dieu. Alors on dit, Dieu l'a jugé. Mais le Seigneur dit, mais attention, hein, vous croyez qu'il n'y a qu'eux qui vont être jugés? Si vous ne vous repentez pas, vous serez jugé aussi. Il ne faut pas mourir d'une façon très spéciale pour être jugé par Dieu. On sera tous jugés si on ne se repent pas. Et dans ce contexte-là, le Seigneur dit, oui, il faut se repentir pour ne pas être perdu, mais il faut avoir de la patience pour permettre à un arbre inutile de porter du fruit. Amen. Alors, on peut lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, un conseil donné au pasteur. Alors, vous allez dire, bah, ça va, alors ça ne vous concerne pas. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Vous savez, j'ai toujours été impressionné des hommes que Dieu a choisis pour qu'ils lui servent. Par exemple, Moïse. Moïse a toujours intercédé en faveur du peuple. Dieu se choisit des hommes qui aiment son peuple. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Il doit, donc le serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les gentils, non, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Doit redresser avec douceur les adversaires. Bon, c'est pas facile ça. Quand vous avez affaire à des gens qui sont haineux, qui contredisent, qui sont mal intentionnés, orgueilleux. Ah, les gens qui sont orgueilleux, ça nous irrite ça. Mais il se prend pour qui là? Et on a tendance à réagir. Mais l'homme de Dieu, Paul dit, le serviteur de Dieu doit redresser, pas laisser faire, pas laisser les choses se tordre, il doit redresser. Alors certains diront, oui, il faut y aller. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Se pourrait-il qu'il y ait des adversaires dans une église? Avec douceur les adversaires. Ça aussi, c'est impressionnant ce qu'on sait faire avec les arbres. Selon les tuteurs que l'on met, on peut leur donner toutes sortes de formes. Impressionnant. Et des arbres dont on penserait qu'on ne peut rien y faire, ils poussent comme ils poussent. Eh bien, on les redresse ou on leur donne la forme que l'on veut, mais avec douceur. On met simplement un tuteur et on le laisse pousser, suivre le tuteur. C'est avec le temps que l'arbre peut prendre des formes même étonnantes. Oui, je crois que c'est une bonne pédagogie de redresser avec douceur et espoir. Parce que l'Écriture dit, dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance. Vous savez, des fois, on peut savoir y faire. Mais le cœur n'y est pas. On peut savoir s'y prendre avec les gens, mais dans notre cœur dit, bon, moi, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire, je vais éviter que ça soit pire, mais j'aimerais bien te débarrasser de celui-là ou de celle-là. C'est pas glorieux, ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit, avec l'espérance, que Dieu lui donnera la repentance. Amen. Vous savez, c'est jamais une victoire quand quelqu'un se perd. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Amen. Amen. Seigneur, ne veux-tu pas que nous commandions le feu du ciel? Fils du tonnerre, fils de Boanergès, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça va loin. Vous savez, parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous anime quand on veut régler le compte des gens. C'est l'adversaire. Parce que je sais bien que si un chrétien ne peut pas être possédé, il peut néanmoins parfois, quand il est dans la chair, être influencé par l'adversaire. Et il faut faire attention à ce qui nous anime. Si nous sommes animés de patience, à mon avis, nous serons inspirés de l'Esprit. Alléluia. Par contre, si c'est la dureté, je doute que ce soit quelque chose qui vienne d'en haut. Lisons dans Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Exode 13. Bon, maintenant, bien aimé, on n'est pas parfait. Hein. Il pourra vous arriver des fois qu'au lieu d'être patient et doux avec ceux qui vous contredisent, vous ayez des ratés. Hein. Exode 13, verset 17. Vous ayez des ratés. Le pardon, il est pour nous tous. Hein. Vous savez, ce matin, je nous exhorte à la patience, mais si vous n'êtes pas patient, le Seigneur pardonne vos impatiences. Mais il va vous changer aussi. Alléluia. Et nous avons à reconnaître nos péchés. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, donc c'était le plus rapide. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Amen. Alors ça nous prend un contre-pied. Vous ne trouvez pas? Parce que nous, on aime, enfin, je ne sais pas, vous aimez bien les détours. Nous, on aime bien prendre le chemin le plus court, le plus rapide. D'ailleurs, vous avez toutes ces options sur le GPS. Chemin le plus rapide ou le plus court, et puis etc., etc. Nous, il faut que ça aille vite dans ce siècle accéléré dont je parlais tout à l'heure. Mais lui, Dieu dit, oh, je les connais. Si ça va trop vite, ils ne vont pas tenir le choc. Ils vont dire, maintenant, mais l'Égypte, c'est mieux. Bon, malgré toutes les précautions du Seigneur, ils l'ont quand même dit après. Mais ça donne d'autant plus raison à cette sagesse de Dieu de prendre le temps. Et parfois même de rallonger le temps. Ne vous dites peut-être pas, dans ma vie, j'ai perdu du temps. Je regrette. Ah, si seulement j'avais compris ces choses avant. Écoutez, c'est toujours facile de refaire le monde et ce qu'aurait dû être notre vie. Mais nous ne savons pas ce que cela aurait été si cela avait été plus vite. Et des fois, il est bon que nous perdions du temps. Parce qu'en fait, on n'en perd pas. C'est un temps dans lequel, dans nos détours, le mot est employé, le mot détour. Dans nos détours, Dieu nous travaille. Dieu agit pour nous permettre de vivre ce qu'il a prévu. Plus tard, pas trop tôt, pas trop vite. Amen. Dans la patience de Dieu, il y a quelque chose de sage. Merci Seigneur. Allons, marchons pas à pas. D'ailleurs, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est plutôt un marathon et c'est même plutôt une marche. Cette expression marcher, marcher dans l'amour, etc. Plusieurs fois, le Nouveau Testament exhorte les chrétiens à marcher. Pas forcément à courir. Il y a d'autres passages qui parlent de courir. Mais bien des passages parlent aussi de marcher. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où il faut courir. Mais la plupart du temps, il faut marcher et tenir la distance. La patience de Dieu, les détours de Dieu, ne prenons pas des raccourcis, n'allons pas trop vite. Être patient dans la vie chrétienne, c'est aussi prendre le temps de se décider, et peut-être surtout, et ça c'est le plus dur, attendre que le Seigneur nous conduise. Amen. Lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 16, un conseil dans notre patience avec les autres. Il me semble qu'il faut prier pour eux. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Amen. On pourrait un jour, dans une étude biblique, mieux détailler, expliquer ce passage. Simplement, pour mieux le comprendre avec rapidité, dans le contexte de ce passage, c'est la prière. Verset 14, verset 15. Jean dit, Dieu nous écoute. Et quand après il parle de prier pour un frère, il dit, Dieu nous écoutera aussi, il donnera la vie, sauf pour celui qui commet le péché qui mène à la mort. Donc c'est simplement dans ce contexte de la vie de prière, Jean veut dire, il est normal parfois que Dieu ne nous exauce pas pour certaines personnes, parce que ces personnes vont à la mort. Je ne détaillerai pas, en aparté, on peut en discuter, ou dans un autre étude biblique, ça prendrait trop de temps. Ça déjà, c'est quand même aussi bien, c'est que parfois on prie le Seigneur et on dit, mais j'ai prié pour lui, Seigneur, et au final, il est mort loin de toi. Oui, Dieu ne nous promet pas de sauver tout le monde, mais il donnera la vie à tout frère qui ne va pas vers la mort. Mais c'est une promesse pour nous. Que quand nous voyons les uns et les autres avoir dans leur vie des faux pas, commettre des fautes, ben la Bible nous dit, prie. Prie et Dieu lui donnera la vie. Amen. C'est beaucoup plus facile de critiquer que de prier. C'est beaucoup plus facile. On n'est pas des champions quand on critique et qu'on ne prie pas. Apprenons plutôt dans la patience. Pourquoi parfois on critique les autres? Parce qu'on en a assez. On n'est plus patient. Lui, de toute façon, on le connaît. Cette famille dans l'église, oh là là, c'est toujours la même chose. Moi, quand même. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller à l'impatience de la critique qu'à la patience de la prière. Amen. Nous tenir devant Dieu. Et d'ailleurs, il me semble que ça ne vous est jamais arrivé, ça, d'avoir des paroles de travers, et puis d'un coup, vous étiez en prière, puis vous avez repensé à ces bien-aimés. Puis là, vous vous êtes dit, je vais prier pour... Ouais, mais après ce que j'ai dit, c'est un peu délicat. Et d'avoir dit d'abord, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai dit l'autre fois. Maintenant, je voudrais prier pour eux. Amen. Et peut-être, la prochaine fois, ne plus recommencer. Alléluia. La patience de la prière. Savez-vous quel est le roi de Juda qui a régné le plus longtemps? C'est une question, vous pouvez répondre. Et même vous tromper, ce n'est pas un drame. Quel est le roi de Juda qui a régné le plus longtemps? C'est un mauvais. Manassé. Avez-vous une idée un peu de la longévité de son règne? Pardon? 50? 55? À deux, alors là, on vous donne quand même le point, à deux années près. 55 ans, c'est quand même long. Et c'est le pire des rois de Juda. Il a remis en vigueur Baal, Astarté. Il a fait passer par le feu ses propres fils. Il a consulté les sorciers, les augures, pour connaître l'avenir. C'est le pire de tous. Et Dieu, non seulement le laisse vivre, mais régner 55 ans. Écoutez, je pense que si on avait sa puissance, on n'aurait peut-être pas laissé régner un tel apostat si longtemps. Il y a des choses qui nous échappent. Parfois, il y a des fidèles qui meurent dans leur jeunesse, et d'autres fois des impies qui finissent bien gras, en bonne santé, et bien longtemps. Eh oui. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Alors, à la fin de sa vie, les dernières années de sa vie, on ne sait pas exactement quand. Eh bien, Dieu l'a châtié en envoyant un roi. Il l'a mis en prison. Et dans sa prison, il a fait une expérience avec Dieu. Je vous lis. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Amen. Si Dieu l'avait jugé trop vite, il n'aurait pas eu le temps de se repentir. Je ne dis pas que c'est la réponse, parce que 55 ans de règne, pour cela, à mon avis, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles Dieu a laissé cet homme régner. Mais cette expérience, en tout cas, a été permise par la longanimité de Dieu. C'est les vieilles traductions qui disent cela. La longanimité, la grande patience, la longue patience, longanimité de Dieu. Alléluia. Eh oui. Alors ça nous rappelle ce texte qu'on va lire dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, si vous voulez bien, 2 Pierre 3, 9, parce qu'on pourrait dire, oui, ben ça c'est Manassé, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil, vous savez. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. « 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. On l'a lu tout à l'heure, user de patience envers tous. Eh bien, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a encore des pécheurs qui doivent se repentir. Amen. Je crois qu'on ne mesure pas la colère de Dieu sur notre monde. Nous, nous disons, Seigneur, reviens, et nous aspirons à ce qu'il revienne. Mais nous ne mesurons pas que Dieu doit être irrité de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend. Et qu'il aurait eu mille et une raisons déjà de faire revenir son Fils pour sauver les siens et juger toute la terre. Mais il se retient. Si le Seigneur ne revient pas, c'est pas parce que Dieu a oublié sa promesse, c'est pas parce que sa promesse est fausse, c'est parce que Dieu se retient. Parce que s'il est en colère contre l'humanité, il aime aussi ses créatures. Et il retarde le temps du retour de son Fils. Pour qui ? Pour nous tous. Amen. Il use de patience envers vous. Et c'est écrit à des chrétiens. Et dans le texte original, c'est pas si clair. C'est vraiment envers tout le monde. Personnellement, je pense envers les inconvertis et envers ceux du dedans aussi. Parce qu'il vous est peut-être arrivé en tant que chrétien dans votre vie d'avoir un moment où vous étiez si loin du Seigneur que s'il était revenu, vous n'auriez peut-être pas été sauvé. Ben, le Seigneur a attendu. Alléluia. Dieu soit béni. Le Seigneur reviendra quand tous ceux qui doivent se repentir se seront repentis. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que quand il reviendra, il n'y aura plus personne qui croira quasiment. Parce que quand les gens ne se repentiront plus, quand il n'y aura plus de foi sur la terre, alors il pourra revenir. Tout simplement. Mais vous voyez, quand même, Manassé, Dieu a attendu toute sa vie, et pour nous, ça fait 2000 ans que Dieu attend pour sauver un maximum de pécheurs. Merci Seigneur. Oui, ce que nous désirons, bien-aimés, c'est pas qu'il y aurait comme une élite dans l'Église qui soit sauvée, mais nous voulons que tous les chrétiens de l'Église soient sauvés. Amen. Et nous préférerions, si nous sommes peut-être nous prêts, quelques-uns, dire « Seigneur, pas trop vite, pas tout de suite, on en connaît quelques-uns, ils ne sont pas encore prêts. » Alléluia. C'est comme si vous prenez votre voiture et il vous manque un enfant. C'est toujours le même qui est toujours en retard. Ah, c'est, à mon avis, c'est une adolescente qui traîne dans la salle de bain. Ben, vous n'allez quand même pas dire « Tant pis pour elle, on s'en va en vacances. » Vous allez l'attendre quand même. Enfin, j'espère. Nous voulons attendre tout le monde avant que le Seigneur revienne pour nous enlever au ciel. Dieu soit béni. Soyons patients envers les autres bien-aimés. Alors, permettez-moi ces deux illustrations. Ne vous êtes-vous jamais énervé avec votre enfant pour réviser ses devoirs ? Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai constaté une chose, c'est que quand après ma femme prenait le relais avec beaucoup plus de douceur, ça allait beaucoup mieux. Si on s'énerve avec notre enfant qui a des difficultés, on va lui montrer que vraiment, il n'y comprend rien et qu'il est bête. Ça ne va pas l'aider. Ça va l'énerver, ça va vous énerver encore plus. Bon, et puis vous, la suite, vous la connaissez à mon avis aussi quand même, il n'y a pas que moi. Je crois que être patient avec les autres, c'est ce qui va nous permettre aussi peut-être d'obtenir le meilleur résultat. Mais on ne le fait pas dans un but d'obtenir un meilleur résultat. C'est vraiment pour le bien des gens. Amen. La conduite accompagnée. Je ne sais pas si vous avez décidé que votre enfant fasse à 16 ans le permis. Alors réfléchissez bien. Parce que vous allez devoir accompagner votre enfant qui conduit. Et faites attention de ne pas trop le stresser. Mais enfin, je t'avais dit de mettre ton clignotant à gauche. C'était à droite. Oui, mais papa, t'écoutes jamais ce que je te dis. Oh là 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 là. Là aussi, en fait, il y a des gens qui n'ont pas réussi leur permis parce que le moniteur leur a fait perdre tout moyen parce qu'ils n'étaient pas forcément très adroits, très patients, souvent. Amen. Bon, voilà. La patience envers les autres. Amen. Je terminerai avec la patience dans la vie chrétienne. La patience dans les moments difficiles. Des moments où il faut serrer les dents. Il faut passer à travers. Mais la patience aussi dans la vie ordinaire. Ça, on peut le lire dans Galates chapitre 6. Vous voulez bien? On va le lire. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Versets 1 à 9. Le temps est avancé. Je ne pourrai pas lire les passages, mais on lira celui-ci. Galates chapitre 6, verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, verset 10 plutôt, maintenant. Non, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alors ici, c'est... Alors, au début du passage, c'est la patience avec les autres. Porter les fardeaux les uns des autres, reprendre, mais dans un esprit de douceur, pour aider quelqu'un. Et puis, au verset 9, c'est plutôt la patience dans la vie ordinaire. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je sais que nous sommes pentecôtistes et que nous aimons beaucoup parler de miracles. Mais honnêtement, est-ce que la vie chrétienne est une vie quotidienne de miracles? Non. Il y a beaucoup de choses ordinaires dans la vie chrétienne. Tous les jours, vous devez vous lever et aller au travail. C'est pas un miracle. C'est parfois même un peu difficile. Peut-être régulièrement, vous devez aller voir des personnes de votre famille qui ont tendance à avoir les mêmes rengaines. Et il n'y a pas de miracle. Ils ne rajeunissent pas. On ne passe pas de 95 ans à 25 ans. Ce genre de miracle n'existe pas. La vie chrétienne est faite peut-être de 90%, de 95% dans la vie de tous les jours, je parle, de choses ordinaires. Et là, ne trouvez-vous pas qu'il faut beaucoup de patience pour tous les jours faire le bien? Ne nous lassons pas de faire le bien. Aller au travail, c'est faire le bien. Parce que des fois, quand on lit dans la Bible faire le bien, on s'imagine faire des choses en plus. Mais faire le bien, c'est avoir une bonne vie agréable à Dieu dans l'ordinaire du quotidien. Et là, le Seigneur nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien, soyez patient, continuez. Si vous ne vous relâchez pas, vous moissonnerez. Et nous ne savons pas toutes les récompenses et le grand salaire que Dieu va nous donner pour toutes ces choses ordinaires dans lesquelles nous aurons persévéré. Amen. Ça, ce n'est pas dans l'ère du temps. Nous sommes dans l'ère de la rapidité et du sensationnel. Il faut aller à l'ascenseur. En Belgique, c'est à Walibi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un immense ascenseur dans un parc d'attractions. Et il monte, et quand on va, oh là là, moi jamais de ma vie j'irai là-bas. Il monte, et d'un coup, hop, il redescend. Waouh! Il y a de quoi avoir des sensations, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et notre génération est en quête de sortir de l'ordinaire. Mais ça en fait quoi? Ça en fait souvent des gens instables, toujours mécontents, déséquilibrés d'un point de vue même psychique, incapables de rester mariés longtemps, parce que être marié c'est trop ordinaire. Alors il faut vivre quelque chose d'autre avec une autre, avec un autre. Toujours dans ce désir de sortir de l'ordinaire. Mais la vie chrétienne, c'est d'accepter l'ordinaire et de glorifier Dieu dans l'ordinaire. Amen. Et de vivre même le renouvellement dans l'ordinaire. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas confondre nouveauté et renouvellement. Vous pouvez essayer d'aller dans des manèges pour vous donner des sensations, mais vous n'aurez ni la paix, ni le salut, ni la joie. Par contre, vous pouvez accomplir humblement votre tâche de chaque jour, mais en communion avec Dieu, avoir un trésor intérieur et être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Vivre le miraculeux, vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Amen. L'extraordinaire, ce n'est pas sortir de l'ordinaire, c'est vivre l'ordinaire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Allez, je termine avec lequel passage ? Romains chapitre 15, versets 14 et 15. Romains chapitre 15. Romains 15, verset 14. Alors, non, c'est verset 4. Verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience ou persévérance, c'est le même mot, et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Amen. Le mot de la fin sera sur une des sources, un des moyens pour nous accorder de la patience dans la vie, les Écritures. Les Écritures. Je vais imprimer des tables de matière de la Bible et vous les distribuer pour ceux qui le veulent, évidemment. Peut-être pour favoriser dans notre assemblée la lecture chaque jour de toute l'Écriture. La patience vient de l'Écriture. Peut-être actuellement dans la banalité de la vie, vous êtes desséché, vous êtes lassé. Relisez la parole de Dieu avec un regard attentif. Elle va vous renouveler. Alléluia. Peut-être avec d'autres actuellement, vous ne les supportez plus. Lisez la parole de Dieu. Vous allez être étonné de ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Alléluia. La patience est la consolation que donnent les Écritures. Revenons à la parole de Dieu. Et celle-ci nous donnera les moyens de vivre ce que nous avons partagé. Amen. Votre vie chrétienne ne peut pas reposer sur ma prédication. Ce n'est pas possible. Que Dieu fasse que les messages des frères dans l'assemblée puissent vous aider. Mais il faut que nous ayons tous un enracinement dans la sainte parole du Seigneur. Amen. Et sans vraiment l'expliquer, c'est un peu mystérieux. Dans des moments de la vie, relire la parole de Dieu, franchement, ça redonne une toute autre perspective à notre vie. Amen. Que Dieu nous bénisse.